Voilà. Je remercie d'abord mes collègues et amis Michel et Loïc de proposer cette FMC. Donc moi je connais pas mal d'entre vous, mais je me représente bien sûr. Donc moi je suis docteur Frédéric Koschmann, pédopsychiatre, psychiatre. J'ai fait mes études dans la région et j'ai beaucoup navigué et bourlingué entre d'abord un côté recherche, enseignement, où j'ai commencé ma carrière au CHR de Lille. J'ai été le dernier élève de Philippe Jean Parquet, que pour beaucoup d'entre vous, vous avez sûrement connu. Et donc là maintenant, je m'occupe d'une clinique qui est la clinique Lautréamont, qui est une clinique de prise en charge des jeunes en souffrance psychique. C'est le seul service de pédopsychiatrie 8-15 ans privé en France, et également un grand service pour les 15-25 ans, ce qui fait que nous accueillons beaucoup de jeunes en souffrance psychique du CE1 à la 6e année de médecine actuellement. Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là que je vous propose de vous parler de l'avis d'un pédopsychiatre et d'un psychiatre sur les conseils médicaux à donner aux parents, aux enfants. Donc je vous propose une première partie d'exposé d'environ 40 minutes à partir de maintenant, et qu'on se donne 20 minutes d'entretien ensemble, d'échange, questions-réponses entre 20h40 pour finir à 21h. Donc je débute ce temps difficile et tout à fait historique, on peut le dire aujourd'hui, d'avoir nos patients dans une situation...
Surtout pour le toucher rectal, il devient performant.
Allô?
Allô?
Oui, oui, j'entends plein de personnes qui parlent en même temps. Donc je reprends.
Marc, il va rentrer, c'est en conférence téléphonique.
Oui.
Donc, il y a quelqu'un qui parle, qui en plus parle de toucher rectal, qui n'est pas du tout une plaisanterie, j'aimerais bien que ça s'arrête.
Ouais, ok. Donc je commence. Donc le topo sur les conseils à donner pour nos patients, c'est-à-dire on va parler à la fois des parents qui sont à la maison, des enfants, et donc je vais commencer ce topo par des formes de psychothérapie qui sont nouvelles et qui sont importantes, et en particulier on va commencer par la psychothérapie.
Allô?
Allô?
Ouais. Oui, bonjour Fred.
Allô?
Oui. Allô?
Oui, c'est bien la conférence Frédéric Koschmann.
Oui, mais je pense qu'il y a eu un souci. Je pense que Fred a été coupé. Parce qu'en fait, bon, c'est des choses qui arrivent.
Bon, on va essayer tout à l'heure.
Non, non, mais restez en ligne, parce que de toute façon, c'est une fausse manœuvre. Je vais l'appeler sur une autre ligne.
Allô. Donc, docteur Koschmann, je suis désolé, j'ai été déconnecté, donc je viens de me reconnecter. Donc, je commence le topo maintenant, donc sur ces conseils à donner aux parents et aux enfants dans le cadre du confinement. Et je vais commencer d'abord par une psychothérapie qu'on appelle en France acronyme TIPE pour thérapie interpersonnelle, et on vient même l'associer à TIPARS, T-I-P-A-R-S. Vous pouvez avoir de la documentation dessus, que je vous enverrai et que Michel Bilan mettra sur le site de la FMC. TIPARS égale thérapie interpersonnelle avec aménagement des rythmes sociaux. Il s'agit d'une psychothérapie majeure qui est encore peu pratiquée en France et qui, comme son nom l'indique, va travailler sur les liens interpersonnels, sur par exemple les liens entre un conflit interpersonnel dans un couple et la dépression. Et c'est pour ça que c'est très intéressant dans le domaine des confinements, parce qu'on va vraiment parler des liens interpersonnels qui peuvent être compliqués. Et on va le voir ensemble ce soir. Il s'agit de trouver un juste milieu entre les moments où chaque personne dans une famille confinée a besoin de son temps seul, de sa solitude pour mieux se retrouver, et des moments pour se retrouver aussi ensemble, et ce qui est nouveau pour beaucoup de gens. Donc là, on est qu'est-ce que nous apporte la TIPARS dans ce domaine? Un des points absolument essentiels, c'est l'aménagement des rythmes sociaux. L'aménagement des rythmes sociaux, ce qu'on a pu montrer, en particulier chez les patients bipolaires, qui sont très sensibles, comme vous le savez, aux changements de sommeil, eh bien on a montré une corrélation extrêmement forte entre une irrégularité des heures de coucher, des heures de lever, et ensuite les risques dépressifs dans une journée. Autrement dit, l'inverse est absolument vrai et a été montré dans de multiples études, c'est-à-dire que au plus on a un rythme réglé comme du papier à musique en termes d'heures de coucher et d'heures de lever, au moins on prend le risque d'avoir une dépression et de décompenser sur le plan dépressif. Hein, l'un des risques actuels, pensez-y chez vos patients bipolaires, c'est actuellement des changements d'heures de coucher. Hein, imaginons par exemple qu'une personne en chômage technique actuellement et qui sont en fragilité bipolaire se mette à regarder des séries Netflix jusqu'à 3h du matin et se lève à midi alors que c'est pas du tout ses horaires habituels quand il va au boulot, eh bien il est à haut risque de décompensation. Il faut prévenir absolument surtout nos patients bipolaires, surtout nos patients dépressifs hein, en général, et en général c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un premier conseil à donner et qui est issu de la recherche en psychothérapie interpersonnelle, c'est heure de coucher régulière pour tout le monde. Il s'agit de trouver son rythme, et quand on est en confinement, imaginons que ça dure tout le mois d'avril, c'est plus que probable, il est important d'avoir quasiment à la minute près une heure de coucher, hein, qui va dépendre du cas par cas, puisque il y a des personnes qui ont la chance, comme moi, d'avoir juste besoin de 5 heures de sommeil par nuit. Moi, je dors de 2 heures à 7 heures. D'autres vont avoir besoin de 12 heures de sommeil par nuit. Donc, évidemment, c'est adapté au cas par cas, mais dire au patient, en fonction de votre nombre d'heures de sommeil nécessaires pour vous sentir en forme, couchez-vous toujours à la même heure. Ça ne veut pas dire se coucher éteindre la lumière, ça peut être se dire je me mets au lit à 22h, je prends mon Polar, mon Harlan Coben, mon Astérix et Obélix, hein, pour faire un petit hommage à Uderzo, et puis dès que je sens le train du sommeil arriver, enfin vous connaissez ça mieux que moi, eh bien j'éteins immédiatement, je me couche et je me pose. Et on va voir aussi peut-être là, si on a le temps, des techniques de sommeil. Donc le premier point qui est très important, c'est le respect du cycle veille-sommeil. On sait que ce respect du cycle veille-sommeil, il est très lié à la lumière. Hein, rappelons à nos patients que tant que la lumière est là dans la journée, la lumière du soleil en ce moment, on a de la chance en météo, eh bien la rétine est activée et freine en fait un frein neuronal qui va directement à la glande pinéale. Tant que la rétine est activée, la glande pinéale, ou autrement dit épiphyse, hein, c'est synonyme, ne fabrique pas de mélatonine. À partir de maintenant, la nuit est tombée, hein, je suis comme vous dans la pénombre, enfin juste avec une lumière artificielle dans mon bureau, et eh bien là je commence à fabriquer de la mélatonine parce que ma glande pinéale commence à s'activer. Cette mélatonine ne se fabrique que parce que j'ai été au moins 2 heures par jour à la lumière. Autrement dit, il est très important pour avoir un cycle veille-sommeil d'être dehors dans la journée. Alors idéalement 2 heures par jour. Pour nos patients qui ont la chance d'avoir un jardin, un jardinet, un petit parc en bas de leur immeuble, hein, il est très important de leur dire sortez, évidemment en respectant strictement les règles de confinement, ça c'est une évidence, hein, mais bougez, faites vos courses quand vous avez des courses de première nécessité, faites-les à pied. Allez justement passer du temps à l'extérieur, prenez le soleil, et c'est très important pour nos enfants aussi. Ce rythme veille-sommeil, on le sait, est très lié, et c'est naturel, depuis la nuit des temps, depuis notre ADN humain, depuis 7 millions d'années, à ce temps de prise de lumière diurne, et ensuite pour pouvoir avoir un sommeil de bonne qualité. J'en profite pour dire que des personnes qui n'ont pas les possibilités de faire ça, pour des raisons de confinement, pour des raisons de pas de jardin, pas de parc accessible, à ce moment-là, pensez mélatonine, hein, et pensez à prescrire chez ces patients de la mélatonine, en particulier chez des personnes qui n'auraient pas assez de lumière dans la journée. Le dosage de mélatonine minimum est de 2 mg au coucher. Beaucoup de gens disent « Oh, j'ai essayé », mais on va se rendre compte qu'ils ont essayé des Nova Nuit, des choses comme ça, qui sont dosées qu'à 1 mg. Et en fait, ils ont été en sous-dosage. Pour que ça marche, il faut vraiment au minimum 2 mg de mélatonine. Moi, je prescris pas mal, chacun d'entre nous, nous avons nos marques préférées. Moi, le Valdisper, que je trouve bien efficace et sérieux, et avec des très bons retours de mes patients. Donc, Valdisper, mélatonine, 1,9 mg au coucher. Or, c'est particulièrement important chez nos patients dépressifs, qui risque d'avoir donc ce dysfonctionnement des rythmes veille-sommeil, encore plus chez nos patients bipolaires. Pensez aussi aux enfants hyperactifs. Les enfants hyperactifs ont pour 70% des troubles du sommeil. Hein, c'est très très fréquent et on fait des miracles chez les enfants hyperactifs en leur mettant un petit peu de mélatonine le soir. Je dirais chez les moins de 10 ans, on peut essayer du 1 mg. Chez les plus de 10 ans, ça va être le même dosage que chez l'adulte, 2 mg. Donc voilà, important le rythme, valable pour toute la famille. Et donc moi je conseille aux familles de prendre des rythmes assez réguliers et pour les mêmes raisons aussi de ne surtout pas faire de grasse matinée. Le risque serait de se dire, bah au moins je suis tranquille, je laisse mes enfants dormir jusqu'à midi, une heure, comme ça ils me foutent la paix. C'est pas du tout une bonne idée parce que ça va beaucoup contribuer à une ambiance infernale à la maison, des enfants irritables qui auront un décalage de phase, c'est-à-dire ils se couchent beaucoup trop tard le soir, ils se lèvent beaucoup trop tard et on est dans des rythmes complètement décalés, chacun devant ses écrans, et là, il n'y a rien de pire pour faire un confinement catastrophique. Donc l'idée, c'est que tout le monde se lève assez tôt. Idéalement, hein, dans la structuration familiale, on se lève comme si on allait à l'école et comme si on allait travailler. Hein, donc c'est-à-dire, on va se lever à 7h30, on prend son petit déjeuner ensemble, on va aller sur une petite balade pour promener le chien, etc. Et donc c'est très important de garder le rythme avec toute la famille et de poser des rythmes, pourquoi pas, hein, faire un calendrier dans la maison, voilà, on se retrouve au petit déjeuner, ensuite on a un temps personnel chacun pour soi, un temps de devoir pour les enfants, pendant ce temps-là les parents font du télétravail, ensuite à 12h30 on se retrouve au repas, à 14h chacun, là c'est le moment de sortir dehors, c'est midi heure solaire, hein, 14h actuellement, donc c'est idéal pour prendre la lumière diurne, on va aller se balader dans l'après-midi, promener le chien, faire des courses de première nécessité, faire un petit peu de marche rapide ou de jogging à 1 km de la maison, hein, et donc on va avoir tout ça. Dans le même temps, ça veut dire aussi écran réglementé, absolument. Les écrans et sont les ennemis du confinement. Ça rime. Hein, c'est, y a rien de pire. Alors ça, un côté, on est bien tranquille. Les enfants nous foutent la paix pendant qu'ils sont sur leur iPad, sur leur tablette, sur leur smartphone. Mais c'est une catastrophe en termes d'irritabilité, en termes de passage à l'acte, d'intolérance aux frustrations. Donc c'est un point essentiel.
Attendez, Frédéric. Il y a quelques personnes qui ont mis leur micro ou leur haut-parleur. Il faut couper et les haut-parleurs et les micros. Parce qu'il n'est pas du tout normal qu'on entende des gens parler. Vous pourrez parler en temps et en heure, mais pour l'instant, il faut se taire.
Oui, parce que c'est très gênant pour moi. J'entends depuis que j'ai l'impression de parler dans une salle bruyante. Donc, merci beaucoup. Donc, je reprends. Donc, on en est à le côté, les écrans. Faire très attention, limiter les écrans autant que faire se peut au strict minimum. Les écrans sont un piège. Alors je disais que on a cette impression de facilité, au moins ils nous foutent la paix quand ils sont dans leur écran toute la journée. Hein, c'est très important de réglementer ces écrans. On a parlé des rythmes veille-sommeil, une évidence, pas d'écran au moins 2 heures avant le coucher. Pas d'écran maintenant, quoi. Hein, supprimer les écrans... du soir. Je parle pas de la télé. La télé, on peut se retrouver parce qu'on est un peu plus loin de la télé. On va être en famille dans le canapé en train de regarder une série. Mais je parle là des tablettes, de l'écran d'ordinateur portable, du smartphone, bien sûr. Vous connaissez, et c'est important aussi de faire la psychoéducation de nos patients autour de cette fameuse lumière bleue. C'est-à-dire que ça rend le cerveau schizophrène, entre guillemets, façon de parler, bien sûr. C'est-à-dire que là, il est 21h, je me suis levé sûrement comme vous vers 7h du matin. Ça fait 14h que je suis levé. Hein, ou 13h que je suis levé, donc mon cerveau commence à fatiguer, et si je suis devant mon portable maintenant, je donne comme double information à mon cerveau, il est midi en plein soleil un jour d'été. Donc mon pauvre cerveau, comment voulez-vous qu'il s'y retrouve entre deux informations complètement contradictoires? La lumière bleue des téléphones, c'est ça. C'est-à-dire que ça donne comme information, c'est la lumière bleue d'un ciel d'été à midi. D'où l'importance de dire tout ça à nos patients, pas d'écran le soir, les écrans vont être réglementés, par exemple, après avoir fait les devoirs, après la balade de l'après-midi et le temps passé dans le jardin, on va faire des écrans de 5 à 7, 2 heures par jour, c'est bien largement assez, avant le repas du soir, par exemple, et avant les activités du soir, que je conseille vivement diversifier. Ne soyez pas surtout devant la télé non-stop à se binge-watcher, comme disent les jeunes, des séries sur Netflix 5 heures par jour, mais ressortez des jeux de société, recherchez des jeux comiques, des mimes, des voilà ce que faisaient nos parents, nos grands-parents et ceux dont vous vous souvenez de votre enfance. Hein, y a des jeux très bien faits pour ça, je conseille par exemple Time's Up et des jeux comme ça dans lesquels on va remimer en famille, on va faire des loups-garous de tierce lieu. Hein, si vous voulez, je vous donnerai aussi un listing de jeux de société à acheter actuellement sur Amazon. C'est un très bon moment pour redécouvrir en famille le rire des jeux de société. Je passe à la suite. Autre psychothérapie qui a bouleversé la psy ces dernières années, c'est la psychologie positive. Vous savez que toute la psychologie a été basée depuis le 19e siècle sur le repérage de la souffrance de nos patients. On a appris à repérer comment diagnostiquer un autisme, une schizophrénie, une dépression, un trouble bipolaire. Hein, et dans les années 90, des Américains, hein, se retrouvant au cours d'un repas, se disent « c'est marrant parce que bon, on est bon pour repérer la souffrance psychique chez nos patients, mais pourquoi on ne s'intéresse pas aux gens qui vont bien ?» Et c'est parti d'une anecdote, presque d'une boutade, et les psychologues autour de cette table, dont un certain Daniel Goleman aux États-Unis, se sont dit « mais bon sang, mais c'est bien sûr ». Et ceux qui ont eu plein d'adversités dans la vie, qui ont eu plein de problèmes et qui pourtant ne dépriment pas, quels sont leurs trucs, leurs secrets? Et si on utilisait ces secrets et ces trucs pour justement faire que les gens aillent mieux? Et à partir de là, donc, ils ont découvert, et il y a aujourd'hui une chaire universitaire aux États-Unis, hein, dans la plupart des villes, de psychologie positive. La psychologie positive, elle est partie, la première étude, sur... On a fait une thèse sur plus de 8000 personnes interrogées en leur posant une question d'une simplicité exemplaire. On leur a demandé, sur une échelle de bonheur de 0 à 10, où 0 ce serait l'absence absolue de bonheur, et 10 le bonheur paradisiaque. Là, maintenant, vous êtes à combien ? 5 ce serait un bonheur moyen. Ben, la plupart des gens se répartissent autour de 5, et ça fait donc une fameuse courbe de Gauss, hein, dite du mathématicien Gauss, c'est-à-dire la courbe en cloche. Beaucoup de gens se répartissent sur environ de 5, je suis moyennement heureux dans la vie. Et donc ils ont interrogé ensuite ceux qui se sont donnés entre 8 et 10, et ils les ont comparés à ceux qui se donnaient entre 0 et 2 de bonheur, c'est-à-dire les malheureux versus les très heureux. Et la seule différence, ils ont tout analysé, la richesse, le niveau d'études, même la place dans la fratrie, marié ou pas marié, religieux ou pas religieux, etc. Rien n'est sorti statistiquement sauf un élément. Un seul élément qui est ressorti, c'est le fait d'être en relation interpersonnelle positive. C'est-à-dire, on s'est aperçu que les gens qui se disent heureux sont des gens qui voient du monde, hein, qui sont en permanence avec les autres, qui sont en train de faire des fêtes, d'inviter des gens au barbecue. Alors, je fais exprès, bien sûr, d'insister un peu là-dessus, parce que vous imaginez bien qu'actuellement, malheureusement, tout ça, c'est très compliqué, mais ça n'empêche pas de se dire que c'est très important, et on le c'est aujourd'hui comme une recette, entre guillemets, thérapeutique, c'est-à-dire de dire aux gens, surtout dans cette période de confinement, il n'y a rien de plus important que de rester en contact les uns avec les autres. Moi, je suis sur un groupe WhatsApp avec tous mes amis, et on s'envoie, 60-70 messages par jour, des photos, des trucs d'humour, hein, ça fleurit en ce moment, hein, l'humour autour du Covid-19, on peut téléphoner à ses parents, bien évidemment, rester en contact avec les cousins, les cousines, par des coups de téléphone, par des petits SMS positifs. Hein, demandez aux gens et à vos patients chaque jour d'envoyer au moins 10 messages positifs à tous les gens de leur entourage. Les amis, les voisines, la maman, la tata, hein, « je pense à toi et je t'aime », vivement qu'on se retrouve quand tout ça sera terminé, etc. Donc ça, c'est un point important issu de la psychologie positive. Et vraiment étude à l'appui. L'autre point important, et j'ai résumé en un acronyme de 5 lettres, 10 ans et des centaines de publications de psychologie positive. Retenez l'acronyme CADRE, le mot cadre. Donc acronyme issu de centaines d'études de psychologie positive. Donc on va reprendre les 5 lettres de cadre, vous allez voir. Comment font et quels sont les points caractéristiques des gens qui ne dépriment pas et qui restent positifs même dans les moments difficiles comme le confinement? Eh bien, le point commun de tous ces gens, c'est ces 5 lettres-là. Le premier C, la première lettre, je veux dire, de cadre, le C comme curiosité. Les gens qui ont de la curiosité dans la vie sont protégés vis-à-vis de la dépression. Hein, c'est la curiosité d'apprendre quelque chose de nouveau. Tiens, je vais en profiter pendant cette période de confinement pour me mettre à passer mon permis bateau. Alors évidemment, je ne vais pas passer tout de suite en pratique, mais je vais commencer à réviser le code. Je vais me trouver un code de permis bateau sur Internet. Tiens, si je me mettais au japonais. Tiens, moi qui suis d'origine polonaise, comme maintenant malheureusement, mais une grosse partie, tous mes grands-parents et tous les gens que je connaissais, hein, sont décédés et je ne pratique plus. Et si je me remettais à apprendre le polonais, ça fait partie de ma culture personnelle. Et si je me mettais à apprendre, d'une nouvelle forme de cuisine, je vais me mettre à la cuisine indienne, etc. Donc la curiosité, c'est tout simplement par la curiosité d'apprendre. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Hein, ce n'est absolument pas l'apanage des étudiants, bien sûr. Hein, et on apprend tout au long de sa vie, ça c'est un point important. Le A comme activité physique, hein, le A de cadre. Donc bien sûr, les activités physiques, centaines d'études à l'appui, et je pense que, comme j'en suis même persuadé, vous en parlez beaucoup à vos patients, hein, c'est antidépresseur, c'est anxiolytique, c'est pro-immunitaire. En ce moment, s'il y a bien un médicament universel anti-Covid, c'est le sport. Alors, avec le sport qu'on va adapter à la situation actuelle. Ça peut être du sport intérieur. Tiens, et si je me mettais au yoga? Ça fait longtemps que je me dis que j'ai envie de me faire du yoga. Et les gens vont trouver sur Internet, hein, plein de tutos, plein de choses pour se mettre au yoga. Bien sûr, de la gymnastique intérieure. Alors, certaines personnes ont un vélo d'appartement, etc., etc. Mais se faire du sport tous les jours. On a le droit, même en période de confinement, d'aller faire du sport à l'extérieur, moins d'une heure, à moins d'un kilomètre de chez soi. Et donc, on va se mettre... Moi, je suis un peu frustré parce que je fais pas mal de vélo. Eh ben, je fais du vélo actuellement en boucle à 1 kilomètre de la maison. Mais c'est possible, bien sûr. Et puis, d'autres vont aller faire du jogging et vont se trouver une boucle autour de chez eux aussi. On a tous les moyens de se réadapter. Et ce sport est d'une extrême importance. Le D, lettre centrale de cadre, c'est la lettre la plus importante. C'est le D de donner. Donner du temps, donner de la joie, donner de l'humour, donner à une association, de faire du bénévolat, donner de son temps, donner de l'amitié, donner 2 euros à un SDF, donner tout ce que vous voulez, comme disait Enrico Macias, donner, et ça ne vous fera le plus grand bien, et c'est un profond antidépresseur de donner autour de soi. Donner de l'amour, donner des baisers virtuels à tous les gens que vous aimez, envoyer des SMS, etc., et dire ça à nos patients. Le R, on en a parlé déjà, je ne reviens pas dessus, c'est les relations interpersonnelles, l'importance d'être en contact avec tous les gens qu'on aime, et aussi les gens qu'on n'aime pas, pourquoi pas, hein, c'est de pouvoir rester en contact avec les collègues, c'est ce qu'on fait ce soir. C'est tellement important qu'on reste aussi en solidarité, en contact chacun les uns avec les autres. Et enfin, le E de cadre, c'est les études. Donc, faire des études, hein, mettez-vous au japonais, on en parlait tout à l'heure, au chinois, à tout ce que vous voulez, à la cuisine lituanienne, ou à la gymnastique coréenne du Nord. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est important, c'est de reprendre, de faire apprendre au cerveau des choses nouvelles. C'est un profond antidépresseur, et on a même montré aussi que c'est un activateur du système immunitaire. Donc pensez à tout ça, hein, et dites-le à vos patients. Hein, en vous couchant, écrivez par exemple cadre sur une feuille avec vos patients, en remettant curiosité, activité physique, données, relations interpersonnelles et les études. Et dites à vos patients, je veux que tous les soirs vous vous couchiez en vous demandant, avant de vous coucher, dites-vous-le ce soir, tiens, avant de vous coucher, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui en curiosité? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui en activité physique? Qu'est-ce que j'ai donné aujourd'hui? Hein, bon, nous, en tant que médecins, on a beaucoup donné, je pense, hein, aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait comme relation interpersonnelle? Merde, ça fait 3 jours que j'ai pas téléphoné à mes parents. Qu'est-ce que j'ai fait comme étude? Hein, donc c'est à vous de trouver, hein, tout ça et de donner surtout ces conseils majeurs à vos patients. Je passe, hein, parce que le temps tourne, à l'alimentation. Un point absolument essentiel. Hein, l'alimentation, le stress, on le sait aujourd'hui, et de nombreuses études à l'appui, est un pro-inflammatoire. Le stress chronique engendré par un confinement est un pro-inflammatoire. À noter également que ce côté pro-inflammatoire au départ... Hein, est un instinct de survie des animaux depuis au moins, on pense, 60 millions d'années. Vous savez que l'animal malade, hein, c'est le fameux syndrome de l'animal malade, hein, il se confine, il s'isole des autres, il va se planquer sous une pierre, eh bien, on le sait, c'est darwinien, hein, en fait, hein, c'est une sélection naturelle de l'animal malade, il va se planquer, soit mourir, soit survivre, hein, mais en tout cas, il ne va pas contaminer les autres. Donc, cette histoire de confinement, en fait, existe chez les proto-mammifères, sûrement depuis 100 millions d'années, hein, c'est pas Macron qui l'a inventé. Donc, ça, c'est aussi un point important pour dire à nos patients, au départ, ce confinement, il est nécessaire pour tout le monde. Et c'est des molécules comme des interleukines qui sont des pro-inflammatoires et qui nous donnent ces propriétés. Le problème, c'est que le stress en lui-même est un pro-inflammatoire puissant. Hein, on a des études, et je vous en fournirai une, par exemple, que j'ai sous les yeux, qui montre ce côté pro-inflammatoire. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il y a différentes étapes, en fait, dans l'inflammation. Premièrement, quand on est dans un stress aigu et suraigu, vous vous souvenez sûrement, on va fabriquer énormément d'adrénaline pour survivre et également énormément de cortisol. On va avoir au départ une extrême activation de nos voies hypothalamo hypophyso cortico surrénalienne pour créer du cortisol à fond et pour nous donner un côté anti-inflammatoire, antalgique. Si l'ours qui est face à nous nous arrache le bras, pendant qu'on est en train de survivre, on ne le sentira pas trop pour être en capacité de survivre. Et ensuite, ce cortisol baisse et va laisser la place à une autre forme d'inflammation avec des cytokines qui vont être extrêmement importantes. Et c'est ces cytokines qui vont fabriquer ce que les anglo-saxons appellent le sickness behavior, c'est-à-dire le comportement de malade. Ce comportement de malade, il consiste en quoi? C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le mode de survie, s'isoler pour se reposer, récupérer, ne pas contaminer ses congénères. Et les symptômes qu'on va avoir, c'est l'isolement, le ralentissement psychomoteur, l'irritabilité, la perte d'appétit, l'hypersomnie. Mais on va avoir aussi une hyperalgie qui va nous empêcher d'aller retourner au combat pour survivre depuis la nuit des temps. Tous ces phénomènes-là pro-inflammatoires vont avoir un impact majeur. Pourquoi j'en parle? Parce que l'inflammation a un rôle absolument majeur pour lutter contre l'inflammation. Il est évidemment hors de question de prendre des INS en ce moment, ça je passe très vite, c'est pas le sujet du jour, mais en revanche, vous savez que ce qui est pro-inflammatoire, ce qui est à retenir en pro-inflammatoire, ce sont les viandes. Toutes les viandes sont des puissants pro-inflammatoires, encore plus les viandes rouges, et encore plus les viandes ultra-transformées. En gros, manger une merguez, c'est l'équivalent de fumer plusieurs cigarettes. Donc c'est et ça, c'est des études à l'appui qui nous le montrent. Je pense qu'il y a des spécialistes bien plus grands que moi de tout ce qui est micronutrition, alimentation. Et donc il y a des études très très présentes qui nous montrent. Je suis en train d'en chercher parce que j'ai un diaporama sous les yeux. Qui nous montrent effectivement que notre microbiote va être très touché par des mécanismes de type pro-inflammatoire par par la viande. Ça, j'ai trouvé une étude, c'est une méta-analyse, vous pouvez la retrouver, c'est Chen, l'auteur CHEN, et c'est publié dans European Journal of Clinical Nutrition 2013, méta-analyse de près de 240 personnes, c'est plus 10% de risque cardiovasculaire pour chaque tranche de 100 grammes de viande par jour. C'est plus 13% si viande rouge, et c'est plus 22% si charcuterie. Donc arrêtez actuellement le saucisson à l'ail avec la bière et les rillettes pendant le confinement en étant devant son écran toute la journée, parce que là vous allez courir à la catastrophe. Et donc aujourd'hui, on est beaucoup de micronutritionnistes en particulier sont en train de se poser la question. Et si on arrêtait la viande? Le fameux nutritionniste, notre confrère docteur Curté, nous dit, je recite une de ses phrases: la viande est un des aliments les plus pro-inflammatoires que nous puissions consommer. On mesure après un repas de viande une montée postprandiale des marqueurs inflammatoires qui ne sont pas redescendus au repas suivant. C'est-à-dire qu'on est en inflammation chronique, en fait, en mangeant de la viande toute la journée, au même titre que le fumeur ou le buveur d'alcool impénitent. Donc on a actuellement à conseiller aux patients d'être plutôt produits de la mer, parce que le deuxième aliment le plus pro-inflammatoire, c'est les acides gras saturés, et en particulier les acides gras trans, qu'on appelle également les acides gras partiellement hydrogénés, qu'on va trouver dans les chips, dans les biscuits industriels, dans les sandwichs industriels, la boulangerie d'hypermarché, dans les croissants industriels, etc. Donc il faut éviter à tout prix les acides gras saturés, qu'on va trouver aussi dans les viandes, animales d'ailleurs, mais aussi dans tout ce qui va être alimentation industrielle et plateaux préparés, et éviter enfin les sucres rapides. Donc, dire aux gens, vous faites très... En gros, vous vous rendez compte quand je vous dis ça, que c'est tout ce que sont en train de manger les gens ce soir en confinement. Ils sont devant la télé en train de manger des chips, des pop-corn, des dragibus et autres conneries de malbouffe. Donc c'est un point très important de leur dire, eh bien c'est un bon moment pour se remettre à faire de la cuisine ensemble, avec en famille, et se mettre à, par exemple, manger beaucoup plus de produits venant de la mer. Actuellement, on va se faire des bons plats, je sais pas, des lasagnes au saumon, des choses comme ça, des moules frites, voilà, un bon plat de la région. Et donc on va privilégier les produits venant de la mer, limiter les sucres rapides, arrêter de taper dans les desserts, et puis limiter les acides gras saturés. Ça, ce sont des points essentiels, et donc comme je disais à l'instant, c'est une très belle occasion, ce confinement, de se remettre à apprendre à nos enfants à faire la cuisine. À faire des petits plats à la maison, ça peut être rigolo, on va passer du temps ensemble à faire un gâteau maison, des plats maison, parce que c'est ça qui est aussi une aberration. Les gens sont à la maison et il y a une razzia dans les magasins sur les plateaux préparés, c'est triste, parce qu'on sait que dans les plateaux préparés, c'est beaucoup trop riche en sel, c'est plein de saloperies. Donc, c'est tellement mieux de se refaire une alimentation pesco-végétalienne. Et aujourd'hui, selon toutes les dernières études, l'alimentation la plus anti-inflammatoire et donc la plus en prévention des risques anxio-dépressifs. Il y a un lien très étroit entre l'inflammation chronique et le risque anxio-dépressif. Le sport, dont on a parlé tout à l'heure, est un puissant anti-inflammatoire aussi. Donc l'idéal, c'est faire beaucoup de sport et une alimentation pesco-végétalienne. Expliquez tout ça à vos patients, donc pesco-poisson, végétalienne, on est dans les fruits et légumes, et on va pouvoir en profiter aussi pendant ce temps de confinement pour revoir notre alimentation. Et pour toujours être dans le côté anti-inflammatoire, je vous propose enfin des techniques issues des dernières psychothérapies, en particulier de relaxation, de méditation en pleine conscience. Ça a beaucoup bouleversé aussi la psy de ces dernières années, mais pas que la psy. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez essayé, vous vous êtes peut-être mis à la méditation en pleine conscience en particulier, hein, que les anglo-saxons appellent aussi mindfulness. En fait, la méditation, c'est facile. Hein, et contrairement à ce que pensent les gens, ils peuvent s'acheter un bouquin de mon confrère et ami Christophe André, qui a fait des excellents bouquins. L'un de ses plus connus d'ailleurs, c'est de dire aux gens « acheter, méditer », hein, le verbe comme de Christophe André, hein, ça se trouve sur Amazon et ils le recevront demain ou après-demain, ou le lire en e-book ce soir. Et voilà, il y a des CD intégrés, des MP3, et on apprend à faire de la méditation qui peut se faire en quelques minutes. Moi, ça m'arrive, j'ai fait aujourd'hui de la méditation avec mes patients, j'ai fait des body scans, etc. Et parfois, entre deux patients et deux consultations difficiles, je fais 2 minutes de méditation en respiration. Donc c'est un très bon plan, vous voyez, dans le cadre dont je parlais tout à l'heure, dans étudier la méditation actuellement. Faites-le pour vous, pour mieux l'expliquer à vos patients, hein, de vous mettre actuellement à la méditation. Hein, la méditation, c'est simple, hein, ça se fait autour de la respiration, par exemple. Hein, on va pouvoir vraiment développer des choses très intéressantes. Et vous avez sûrement lu, comme moi, des centaines de publications publiées depuis le début des années 2000, notamment, autour des effets incroyables de la méditation. On a prouvé que la méditation pouvait avoir des effets antidépresseurs, et éviter les rechutes dépressives au moins aussi puissamment que de maintenir un antidépresseur. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des fameuses études qui ont montré que apprendre à méditer était tout aussi puissant en termes de rechutes dépressives que de laisser le patient sous antidépresseur. Hein, ça, les laboratoires pharmaceutiques se gardent bien de nous le dire. Hein, on a méditation et système immunitaire, encore une fois. La méditation renforce le système immunitaire de nos patients et de nous-mêmes. La méditation en tant qu'antidépresseur, en tant qu'anxiolytique. Donc il y a un mélange merveilleux et un cocktail merveilleux de se faire dans la journée, changer son alimentation, faire du sport et apprendre à faire de la méditation. L'autre domaine assez proche, hein, parce que tous ces domaines sont assez proches, c'est de faire de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est issue de données aussi tout à fait récentes. Hein, et la cohérence cardiaque, c'est le lien indéfectible qui existe entre le cœur et le cerveau. Hein, on a des liens. Par exemple, si vous tombez face à votre amoureuse hein, et vous êtes un collégien et que votre amoureuse vous la croisez dans le couloir, vous allez avoir le cœur qui bat, bien sûr. Bien sûr qu'on a le cœur qui bat quand on est amoureux ou quand on est stressé. Il y a un lien évident, hein, par le nerf pneumogastrique en particulier, le nerf vague, entre le cœur et le cerveau. Et donc l'idée de la cohérence cardiaque, c'est que en s'activant sur son cœur, eh bien, on peut tout à fait avoir un impact complètement direct sur un apaisement du cerveau. Et je vais vous donner un petit exercice à faire tout de suite et à faire à vos patients. Et je le renverrai donc à Michel et Loïc pour qu'ils puissent le mettre sur le site de la FMC. Donc, l'exercice est le suivant. C'est déjà respirer en 4-7-8. Pour respirer en 4-7-8, ce sont des techniques ancestrales qui sont utilisées par les yogis, par exemple, la respiration en 4-7-8. Petite explication scientifique juste préalable. On va inspirer en comptant jusqu'à 4, en s'aidant de son pouls, et expirer en comptant jusqu'à 8. Ça, c'est un point, hein, que vous allez parfaitement avoir en tête tout de suite, hein, et en particulier nos collègues cardiologues, hein, c'est qu'on est en bradycardie en expiration, hein, et on est en légère tachycardie en inspiration. Ça, c'est un point essentiel de la cohérence cardiaque. Donc, cette respiration, elle est tout à fait logique. On va être deux fois plus en bradycardie expiration qu'en tachycardie inspiration, puisqu'on va inspirer en comptant jusqu'à 4 et expirer en comptant jusqu'à 8. Alors ce qui est étonnant, c'est que ça s'explique donc aujourd'hui tout à fait scientifiquement, et que les yogis font ça, il paraît, depuis 3000 ans. Donc on va, par exemple, prendre son pouls, hein, au niveau radial, par exemple, et puis on va demander au patient de faire ça, d'inspirer sur 4 pouls, de maintenir et d'arrêter sa respiration sur 7 pulsations, et ensuite d'expirer beaucoup plus doucement, donc forcément, sur 8 pulsations, et ainsi de suite. On fait ça juste 2-3 minutes en prenant son pouls, en fermant les yeux, en se mettant dans un endroit calme, on inspire sur 4 pulsations, on bloque sa respiration sur 7 pulsations, vous le ferez juste après, vous allez voir, et vous faites une bradycardie, donc expiration sur 8 pulsations. À partir de là, au bout de quelques minutes, vous allez imaginer en inspiration que vous envoyez plein de bulles d'air dans votre cœur, d'un air pur. Hein, vous savez que l'avantage du confinement actuel, hein, c'est que l'air n'a jamais été aussi pur dehors. Donc vous imaginez que vous inspirez l'air pur de dehors et vous expirez en imaginant que votre cœur, vous visualisez votre cœur, soit en tant que médecin comme un cœur anatomique, comme on nous l'a appris en cours d'anat, ou alors on peut l'imaginer en cœur symbolique, vous savez, le cœur de dessin animé ou le cœur qu'on a sur nos émojis. Et vous imaginez que sur ce cœur, vous avez dessus plein de noir, comme une forme de suie noire surveillant tout le stress qu'on a accumulé ces derniers jours avec ce confinement, avec ce coronavirus, et tout le stress qu'on a accumulé sur le cœur. La bonne nouvelle, c'est que notre expiration est un karcher. Et donc on va pouvoir, à chaque fois qu'on souffle en expiration, faire un effet karcher sur notre cœur, et millimètre par millimètre, voir s'envoler cette suie et visualiser cette suie qui s'envole. Autrement dit, en inspiration, on imagine des bulles d'air qui rentrent dans notre cœur, et en expiration, on souffle la suie qui est sur notre cœur, et on la visualise millimètre par millimètre, s'envoler, jusqu'à ce qu'on sente notre cœur complètement rose, complètement propre, au bout de peut-être 20, 30 expirations sur votre cœur. Faites cet exercice-là et vous allez ressentir, hein, si vous avez par exemple une montre connectée qui vous prend votre pulsation, vous allez voir, vous allez passer de 83 pulsations minute avant l'exercice à 71 au bout de 10 minutes. Hein, ça a vraiment des effets bradycardisants et surtout, beaucoup plus que bradycardisants, ça va remettre la cohérence cardiaque. C'est-à-dire une parfaite cohérence entre vos pulsations cardiaques qui suivent donc une sinusoïde, hein, cette cohérence cardiaque, puisque la sinusoïde est liée à nos cycles expiration-inspiration. Voilà un exercice tout à fait intéressant à faire à nos patients de cohérence cardiaque. Hein, vous vous souvenez donc 4-7-8 et puis ensuite faire cet exercice où on souffle sur le cœur. Je termine avant de passer aux questions-réponses, hein, puisqu'il est déjà 20h37, quelques conseils supplémentaires concernant les enfants de nos patients, hein, parce que les enfants sont difficiles, bien évidemment, en tout cas pour certains d'entre eux à gérer. Hein, je pense aux enfants hyperactifs, par exemple, on va en parler dans les questions-réponses. Hein, c'est absolument de garder un temps d'école. Hein, les enfants ne sont pas en vacances. C'est pas ouais, c'est les vacances. Donc on trouve un temps d'école, ça peut être par exemple idéalement le matin. On les lève assez tôt, on s'est tous levés à 8h, 8h30, on prend le petit-déjeuner pour les parents qui sont à la maison, hein, en chômage technique par exemple ou en confinement ou en télétravail, et le temps d'école, hein, ça va être par exemple de 8h à 11h comme une matinée d'école, hein, beaucoup d'instituteurs, d'institutrices, de profs ont envoyé des cours par tous les moyens possibles, les vidéos, les PDF, etc. Et ce temps d'école est absolument important. Mais on est vraiment et on joue le jeu. Temps d'école, c'est pas en écoutant de la musique ou avec la télé allumée à côté ou en envoyant des SMS. Donc on a un temps d'école, ça c'est un point important à garder. Dans les rituels, hein, je parle depuis tout à l'heure de rythme à donner à la maison. Donc le rythme, ça peut être, hein, si on résume tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on s'est couché à une heure précise, on s'est levé à une heure précise, on prend un bon petit déjeuner ensemble avec des fruits, hein, des produits anti-inflammatoires, et ensuite on fait un temps d'école, ensuite on aura un temps seul. Ça c'est un point important aussi pour les enfants, de passer du temps aussi pour eux, du temps seul. Oui, l'éloge de l'ennui, même si l'enfant vous dit « je m'ennuie », c'est très important aussi qu'ils aient des temps à eux. Chacun dans sa chambre pendant au moins une demi-heure, moi c'est ce que je préconise et ce que je fais à la clinique, les enfants ont des temps seuls régulièrement et on leur apprend à braver l'ennui et à trouver des nouvelles activités, à se mettre à bouquiner. La lecture, c'est un merveilleux moment, ça rentre dans le cadre de la psychologie positive. Vous voyez, refaire un peu de lecture, lecture, se remettre à relire ou à lire Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux ou tout ce que vous voulez. Et si on se remettait à la lecture ou à une bande dessinée intéressante ou à, voilà, à prendre une règle d'un nouveau jeu de société parce qu'on va faire ce jeu de société cet après-midi avec les frères et sœurs et avec le cousin qui est venu. Donc ça, ça peut être vraiment des points importants. On l'a dit, les écrans très réglementés. Soyez sévère et intransigeant sur les écrans, hein, et dites-le aux parents. Et enfin, des temps ensemble, bien sûr. Il y a les temps seuls et les temps ensemble. Les temps ensemble, bon, on peut pas être théoriquement dehors ensemble, hein, ou en tout cas avec les enfants, on n'est pas loin, mais donc ça peut être aussi un temps important, hein, des jeux dans le jardin. Ressortez les jeux de croquet, peut-être pas encore la piscine gonflable, mais on peut faire plein de choses dans un jardin, un molki, des quilles, ressortir le trampoline et plein d'autres choses. Hein, ce temps seul des enfants, c'est un temps aussi de créativité, un temps pour construire des choses en Lego, en magnète, en capla, faire une histoire avec des Playmobil, faire du dessin, dessiner, créer un scénario, écrire une histoire, hein, remettez vos enfants dans l'imagination, sortez-les des écrans tout faits et remettez-les dans l'imagination, dans ce que nous, enfants, on a fait quand on était petits, où on s'imaginait des histoires avec nos Playmobil, etc. Hein, donc, profitez-en pour les enfants pour faire ça. Les jeux de société, j'en ai un peu parlé, hein, je devrais vous prendre le bureau dans lequel je suis là maintenant chez moi. J'ai devant moi 400 jeux de société parce que je suis un fan. Et donc, on est en train de tous les ressortir les uns après les autres. Et on passe des soirées jeux de société merveilleuses avec mes filles, avec leurs copains. C'est ressortir plein de jeux de société. Donc, j'en ai parlé de certains tout à l'heure. Les jeux de société, il y a vraiment eu un renouveau ces 20 dernières années qui ont été pas mal occultés par le côté des jeux vidéo. Mais regardez sur Amazon, regardez un site, par exemple, je vous conseille un site qui s'appelle TrickTrack, TRICTRAC.net. Hein, c'est un site consacré aux jeux de société. Hein, ils vont vous donner toutes les nouveautés, toutes les choses à faire et redire aux gens de racheter des jeux. Malheureusement, je pense que les ludothèques dans les villes sont fermées, mais à vérifier, hein, peut-être pas. Peut-être que justement, ils ouvrent exprès dans ces moments-là. Aller louer des jeux, aller se faire prêter des jeux, en échanger. Et donc, ça, c'est un point aussi essentiel de retrouver les moments ensemble où on va jouer aux jeux de société. Voilà, je vais passer aux questions-réponses. Je résume donc en quelques mots tout ce que j'ai dit en 42 minutes. La thérapie interpersonnelle nous dit « Les heures de coucher et lever régulier sont des garants d'une extrême importance de notre morale. » Donc, avec le rythme, les rythmes à donner dans la famille, les rythmes qu'on va donner dans la journée sont aussi des stabilisateurs moraux. On prend de la mélatonine si besoin pour les personnes qui en ont vraiment besoin à ce moment-là. La psychologie positive nous dit cadre. Posez-vous la question ce soir et expliquez tout ça à vos patients. Le cadre, je répète, le C comme curiosité, le A comme activité physique, le D comme données, le R comme relation interpersonnelle, le E comme étude. Bien peaufiner le sommeil. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'on va pas manger trop lourd le soir. On se méfie des écrans qui sont des anti-sommeil. On en a parlé. L'alimentation anti-inflammatoire. Donc, proscrire dans la mesure du possible la viande. Ça va être dur. On va pas rendre tous nos patients végétariens, mais limiter les viandes. Arrêter de bouffer des burgers et des trucs à viande à longueur de journée, parce que beaucoup de gens sont dans la malbouffe, ce qui va les mettre dans des positions extrêmement inconfortables en termes de système immunitaire et en termes de risque anxio-dépressif. Enfin, faire de la méditation, de la cohérence cardiaque, d'autres techniques de relaxation, de sophrologie. Et les patients peuvent trouver plein de tutos, comme ils disent, sur YouTube. Ils mettent sur YouTube cohérence cardiaque, relaxation, sophrologie, ils vont trouver plein d'exercices et c'est une très bonne manière actuellement d'étudier tout ça. Et enfin, avec les enfants, des horaires réguliers, des temps d'école, des temps seuls, des écrans réglementés et du temps ensemble à faire la cuisine, à faire des jeux et à faire du sport ensemble. Donc sport, alimentation, méditation. Je vous laisse la parole maintenant, peut-être je te relaisse la parole Michel ou Loïc pour gérer les questions, ou j'avais aussi un ensemble de questions avaient été données par
mail. Je suis impressionné par la qualité de ton exposé et les messages qui sont passés de manière extrêmement limpide maintenant. Je te félicite et je te remercie.
Merci.
Bon, maintenant, vous allez pouvoir poser des questions, mais faites attention de ne pas parler tous en même temps. Mais parlez quand même. Maintenant, vous pouvez ouvrir le micro. Mais sachez également écouter.
D'accord.
Première question. La première question, c'est toujours la plus difficile.
autre question que tu m'avais envoyée, Michel, sur... Oui, allez-y.
C'est Loïc à l'appareil, donc je reviens sur ce que tu nous énonçais comme technique de prise en charge des troubles anxieux.
Oui.
Le cohérence cardiaque est très efficace. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'en téléconsultation, on peut bâtir un schéma de 3 consultations sur un côté d'apprentissage,
cohérence
cardiaque?
Oui, mais sur une téléconsultation, on pourrait aussi demander aux gens de la technique, par exemple, du raisin sec, qui est une technique basique de méditation de pleine conscience. Hein, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez. Hein, vous pouvez rechercher sur Internet, d'ailleurs, en mettant méditation raisin sec PDF, vous devriez tomber sur des fiches qui expliquent bien. La technique de méditation du raisin sec, c'est tout simplement prendre un petit raisin sec et s'hyper concentrer sur lui. D'abord en le regardant, puis en l'écoutant, puis en le sentant et en le goûtant enfin. On va passer 10 minutes sur un petit raisin, ce qu'on fait jamais dans la vie normale, hein, et c'est vraiment une technique de base pour expliquer la simplicité, hein, et le côté assez génial de la méditation. On va juste prendre soin d'un petit raisin sec dans les doigts. Je vous enverrai, si vous ne trouvez pas sur Internet, je vous enverrai aussi une technique de méditation du raisin sec pour que vous puissiez la pratiquer. Hein, donc ça, en téléconsultation, on pourrait imaginer une technique de méditation pour donner aux gens le goût d'en faire plus et d'aller rechercher ensuite d'autres techniques de méditation de pleine conscience. Ça pourrait être une technique de cohérence cardiaque, par exemple, tu vois, comme je vais donner des pratiques de respiration, tout simplement, hein, 4-7-8, comme je disais, mais ça peut être aussi une pratique de cohérence cardiaque qu'on pourrait faire en téléconsultation. Et puis enfin, une technique de relaxation de type, par exemple, auto-hypnose, en apprenant aux gens aussi des techniques d'auto-hypnose qui peuvent être simples, et de fermer les yeux et s'imaginer en train de se balader en forêt ou de marcher sur une plage. Donc moi, je verrais bien un trio de téléconsultations qui intégrerait auto-hypnose, méditation de pleine conscience et cohérence cardiaque.
Oui. Merci beaucoup.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, vous m'entendez?
Oui.
Oui, oui, oui.
J'ai une question. Qu'est-ce qu'on dit aux patients qui ont peur d'être malades ou que leur famille tombe malade?
Je pense que ce qui est important pour les patients, c'est de leur redire en faisant de la psychologie positive. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que 98% de nos patients ne rien avoir ou avoir une forme absolument bénigne, hein, et qui peut passer même quasi inaperçu. Hein. Moi, je pense, par exemple, personnellement l'avoir fait. Hein, j'ai eu mes petits 2 jours de petite accélération du transit intestinal, de petite dyspnée, d'arthralgie et de myalgie. Hein, ça a duré un minimum et ça m'a pas empêché de bosser. Et très probablement, on n'a pas les tests, mais j'ai dû faire une forme atténuée. Hein, on faisait attention de pas contaminer les patients. Mais donc on peut aussi leur dire des choses comme ça. Hein, moi, ça m'arrive de dire ça aux patients, de dire dans l'état actuel des choses, si vous faites bien ce qu'on vous dit, c'est-à-dire de respecter absolument le confinement, de faire attention à ce que vous mangez, de faire de l'exercice physique, de pouvoir vous détendre, faire des exercices de détente, de relaxation, alors vous donnez le meilleur à votre système immunitaire pour vous permettre de traverser cette période en étant, comme dans l'extrême majorité des gens, en passant à travers les mailles du filet. Hein, et donc ça, c'est aussi des points importants de dire aux gens, et c'est une authenticité, je dirais, scientifique. Hein, dans les faits, aujourd'hui, quand on écoute les médias, ils nous parlent de quoi ? Non-stop et toute la journée, des 2% de nos patients qui vont avoir des situations à risque vital engagé. Donc c'est aussi leur dire, la réalité scientifique, c'est de parler aussi de l'extrême majorité des gens qui vont, qui ont les moyens de pouvoir être rassurés et de se dire qu'ils vont passer cette phase avec positivité et en se disant je donne en tout cas le meilleur à mon système immunitaire pour être en capacité de me défendre avec toute ma famille. Et donc je respecte les conseils de mon médecin, je respecte les règles de confinement, et c'est la meilleure façon de passer outre tout ça. Hein, c'est aussi important aussi de dire aux gens hyper anxieux d'arrêter d'écouter les infos. Hein, vous avez fait comme moi, je suppose, quand on écoute les infos en continu, quand on regarde les couvertures de journaux, j'ai préparé des diapos, vous voyez, pour des cours pour l'après-crise, hein, et les couvertures des journaux sont sont catastrophiques. Hein, ça a été, prenez les couvertures du Nouvel Obs, du Point, de l'Express, de tout ce que vous voulez. Hein, ils ont joué là-dessus parce qu'ils vendent leurs journaux là-dessus. On le sait très bien. Il y a un côté très pervers. Les journalistes se régalent en ce moment. Ils ont doublé, triplé leur audience et leur vente de revues. Donc c'est aussi très important de faire attention à l'incroyable subjectivité de ce que nous disent les médias. Les médias vont forcément focaliser sur le cas catastrophique, pas sur le patient qui va bien. Donc c'est aussi leur dire aux gens, sortez des médias toute la journée, ne restez pas sur BFM TV et sur France Info TV allumé toute la journée, mais regardez un Louis de Funès, regardez des dessins animés avec vos enfants. Hein, surtout, éloignez-vous de ces news qui sont extrêmement anxiogènes et dépréciogènes.
Merci beaucoup.
De rien.
Ouais, ça serait, docteur Thirouanne à Paris, ça serait pas une question. J'ai adoré le votre passage sur le cadre là. Sur,
oui.
Si. J'encourage. Oui. Je sais pas si ça se fera, mais moi ça fait deux fois que je suis le mercredi à vous écouter, et je pense que c'est important pour moi pour continuer dans ces moments difficiles. Et j'encourage qu'on se retrouve. Je sais pas si c'est possible tous les mercredis. Mais en tout cas, pour refaire le point, et voilà, moi je voulais simplement dire ça.
D'accord, ben pourquoi pas. Moi en tout cas, je suis un très pour, effectivement, ça fait du bien aussi à moi, et moi je vous en remercie, ce côté de solidarité qu'on sent entre les médecins. Moi j'ai eu depuis tout à l'heure, au téléphone, Michel, plusieurs fois et par mail aussi, mon pote Frédéric Lerouge, médecin généraliste à Comines, qui prenait de mes nouvelles, etc. Et donc plein de monde, on s'appelle entre nous, et c'est aussi super important, ça fait partie des relations interpersonnelles, professionnelles qu'on a entre nous. Donc le fait de se retrouver ensemble, oui, ça fait du bien, hein, de pouvoir se dire, tiens, ça me donne des petites idées pour dire à mes patients dès demain, pour les rassurer, etc. Donc avec plaisir, oui.
Autre question, est-ce qu'il existe une grille test de stress qu'on peut donner aux patients pour leur faire figurer leur progrès de manière analytique?
Ben, il existe différentes grilles de stress. Moi, je vais pas en utiliser de manière systématique, parce que le risque, c'est que les patients, en fait, on fasse l'inverse de ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'avec des grilles de stress, on va leur montrer qu'ils sont effectivement stressés et qu'ils ont des points de stress. Donc, c'est aussi un point qui peut être à double tranchant. Hein, donc c'est aussi à double tranchant d'utiliser ce genre de grille de stress. Moi, je préfère utiliser justement des grilles de positivité, et pourquoi pas faites comme grille de test justement de la psychologie positive. Parce que cette psychologie positive, et je vous invite à lire, hein, mettez sur internet aussi sur Amazon psychologie positive, les bouquins en particulier de Daniel Goleman, vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. Goleman, hein, il y en a d'autres, hein, qui s'y sont mis à la psychologie positive, c'est à la mode, et inventez votre grille vous-même avec cadre. Expliquez aux patients le cadre et demandez-leur, et vous notez un point par lettre. Hein, donc, c'est une grille sur 5 points, et l'objectif, c'est d'avoir 5 points tous les soirs en se couchant. Hein, et ça, c'est une super grille positive, parce qu'on ne mesure pas le taux de stress, mais on mesure le taux de bien-être, hein, et de choses qui ont été faites et dont on sait scientifiquement que c'est bon pour leur santé, à la fois morale et immunitaire, et donc morale et somatique. Donc moi, je pense qu'on va beaucoup mieux avancer. Ça me fait penser, vous voyez, moi qui suis aussi hypnothérapeute, on va pas traiter, hein, je pense que vous êtes plusieurs à m'écouter et qui faites aussi de l'hypnose, on va pas traiter, par exemple, la douleur en hypnose, mais on va demander à la personne, et pour vous, l'opposé de la douleur, ce serait quoi? Ah bah, ce serait le confort. Et on va amener la personne vers le confort, et non pas vers la douleur. Donc, vous voyez, en hypnose, on fait pareil. Dans beaucoup de formes d'hypnothérapie, on va aller vers le positif. Et donc, moi, je suis plus pour une grille de bien-être, hein, et en essayant d'augmenter le bien-être, vous pouvez inventer votre propre grille. Et tout simplement en prenant la grille cadre sur 5 points. Est-ce que vous avez fait des choses de curiosité aujourd'hui? Ah bah oui, j'ai regardé un document aujourd'hui sur la chaîne Histoire, sur la Deuxième Guerre mondiale. J'ai appris plein de choses, c'est super. Ok, qu'est-ce que vous avez fait comme activité physique, etc. Et donc on va faire noter ça à nos patients, et on leur demande de nous envoyer tous les jours, par exemple par SMS, leur score, hein, ou de le noter sur un petit cahier. Et noter aussi, en psychologie positive, on va utiliser aussi quelque chose qui est tout à fait intéressant, des choses de gratitude. hein, de l'autogratitude ou de l'hétérogratitude. Qu'est-ce que vous avez fait comme chose de gratitude et gratifiante aujourd'hui avec les gens que vous aimez? Ben, j'ai téléphoné à mes parents et je leur ai donné plein d'espoir, je les ai fait rire, j'ai envoyé des blagues à des potes sur WhatsApp, et puis j'ai été discuter avec ma voisine un peu, on s'est vu un peu à distance dans la rue, et puis je lui ai donné toute mon amitié, je lui ai dit qu'elle était très importante pour moi, etc. Donc voilà, c'est de noter sur un petit cahier, pourquoi pas faire une sorte de petit cahier de gratitude où les gens notent tous les jours leur score cadre en essayant d'avoir 5 sur 5 et en se donnant des points positifs qu'ils ont fait pour les autres aujourd'hui. Et on est là dans de la belle psychologie positive, hein, qui va être vraiment antidépresseur. À noter, je l'ai pas dit, mais je voulais faire cette introduction-là. Il y a une étude intéressante, mais elle plutôt inquiétante, qui est une méta-analyse. Je vous enverrai aussi pour la FMC cette méta-analyse si vous voulez la lire, et qui montre les dégâts du confinement. C'est-à-dire que des confinements de plusieurs semaines, on le sait, sont très à risque de créer des dépressions, des troubles anxieux et même des états de stress post-traumatique. C'est pour ça que la soirée qu'on fait ensemble ce soir est extrêmement importante, parce qu'on doit être dans la lutte active. Anti-dépression, anxiété et état de stress post-traumatique qui sont inhérents à un confinement. Et ça, personne ne le dit suffisamment, mais nos patients sont tous fragilisés vis-à-vis de ça. Évidemment, encore plus nos patients psy plus fragiles, ceux qu'on connaît et qu'on suit depuis longtemps pour dépression, troubles anxieux, il faut les suivre d'encore plus près. Hein, il faudrait mettre en place effectivement des téléconsultations systématiques, des aides. On a encore plein de choses à inventer durant le mois d'avril ensemble. Hein.
Ok. Bonjour, je suis le docteur Duflo. J'ai préparé une fiche pour mes patients avec des conseils. Je pense que je vais la compléter avec ce que vous nous avez dit ce soir. Est-ce que c'est une bonne idée de leur donner, parce que les consultations sont pas à rallonge. Pour l'instant, on a le temps, mais je sais pas si dans 2-3 semaines, on aura encore le temps de leur expliquer, etc. Est-ce que c'est une bonne idée de leur remettre cette fiche en leur expliquant simplement, mais juste en les laissant se débrouiller tout seul à la maison?
Oui, ben moi je trouve ça super, hein, mais le mieux c'est aussi de leur expliquer un petit peu avant, hein, parce que leur remettre juste une fiche comme ça qu'on leur enverrait de manière anonyme sur internet, je pense que 90% de ces fiches malheureusement seraient à peine lues ou directement mises de côté. Donc c'est idéal par exemple de prendre, quand on a le temps bien sûr, hein, de leur expliquer par exemple le cadre, et puis de leur donner une fiche récapitulative. Hein, moi c'est ce que je fais avec beaucoup de mes patients, hein, par exemple je leur fais pratiquer une autre thérapie intéressante que je vous invite à lire pour faire votre E de cadre et avoir le côté étude, c'est l'EFT. Lisez des bouquins sur EFT, Emotional Freedom Technique, donc en anglais EFT. Regardez par exemple sur Amazon, hein, celle qui m'a formé à l'EFT, c'est Geneviève Gagos. Mettez G-A-G-O-S EFT. Et vous allez tomber sur un ou ces bouquins. C'est vraiment pour les personnes qui sont assez branchées médecine orientale, parce que c'est basé sur les voies énergétiques, les canaux énergétiques de la médecine chinoise en particulier. Et il s'agit de tapotements. L'EFT, c'est de la digiponcture. C'est des tapotements de points d'acupuncture. Alors, il faut avoir l'esprit ouvert, mais ça peut être une excellente occasion d'apprendre à nos patients à faire de l'EFT pendant ce temps de confinement. Ça peut aussi sacrément les aider. Et il y a aussi des études scientifiques, c'est pour ça que je me suis mis aussi à l'EFT. Hein. Moi, je veux des choses, hein, qui soient efficaces, mais qui soient aussi scientifiquement démontrées, publiées. C'est le cas de l'EFT. Donc, regardez aussi EFT, ça peut être tout à fait intéressant aussi, pourquoi pas en téléconsultation, mais là, il faudrait une vidéo, de la téléconsultation vidéo pour montrer à nos patients les points à pratiquer. Essayez sur vous l'EFT, vous m'en donnerez des nouvelles. EFT, Emotional Freedom Technique. Et pour votre fiche, moi, ça me paraît très très bien, mais c'est toujours mieux d'avoir le temps d'en expliquer une partie et donner envie à nos patients de lire le reste de la fiche, en disant, ils vont avoir plein de conseils pratiques, plein de choses en lisant cette fiche et en pratiquant cette fiche par exemple tous les jours, que ce soit une fiche ensuite qui soit une fiche sur leur table de chevet du lever du lever jusqu'au coucher. Très bonne idée.
Merci.
La
fiche. Merci.
Une dernière question?
Oui.
Je ne sais pas, il devait être 21h, on avait dit qu'on passerait une heure, donc si l'affaire est terminée, on en arrête là, ou est-ce que vous avez encore une question à poser?
En cas de prescription de mélatonine, combien de temps?
Je dirais qu'on est en fin de saison presque, c'est-à-dire que normalement pour les personnes qui sont plus fragiles que les autres et en particulier qui peuvent faire des dépressions saisonnières par exemple en hiver, on prescrit la mélatonine jusqu'au milieu du printemps je dirais. Ensuite, à partir du moment où les gens ont la possibilité d'être dehors, mais je pense particulièrement aux gens qui sont en appartement, coincés dans des petits appartements avec très peu de possibilités de sortir, eux vont être des candidats à la mélatonine, mais pour les autres, moi je dirais le prescrire en mars-avril, et puis dire aux gens, la vraie mélatonine, c'est celle que vous allez naturellement aller fabriquer en allant dehors. Et pour fabriquer de la mélatonine, il faudrait idéalement être 2 heures par jour, ce qu'ont fait tous nos ancêtres depuis la nuit des temps. Donc, je dirais mélatonine, c'est bien de prescrire en mars-avril, et puis donc d'ici à fin avril, de pouvoir dire aux gens, allez fabriquer votre mélatonine naturellement. Pour fabriquer cette mélatonine, vous savez que la mélatonine, c'est le métabolite de la sérotonine. Et donc, il faut avoir une alimentation assez riche en sérotonine, qu'on va trouver dans, c'est ubiquitaire, la sérotonine, mais ce qui est souvent cité, c'est les fromages frais type ricotta, les fruits, les légumes, donc on va trouver de la sérotonine en quantité dans beaucoup de choses. Et à noter que les inflammations chroniques sont des mangeurs de sérotonine. Je fais un petit point là-dessus. Notre tryptophane, qui est donc l'acide aminé précurseur de la sérotonine, est complètement bouffé par la voie des kynurénines. La voie des kynurénines qui est ce qui s'active quand on a une inflammation. Une inflammation chronique, par exemple, on est fumeur, on boit, on a une autre inflammation chronique, une maladie rhumatismale, etc. Eh bien, l'inflammation va manger complètement le tryptophane. Donc il faut faire très attention d'avoir une capacité à pouvoir bien réguler l'inflammation. Sinon, ça pourrait être des pourvoyeurs de manque de sérotonine et donc d'augmenter le risque de dépression et des manques de mélatonine et d'augmenter le risque de troubles du sommeil. Donc évidemment, encore une fois, mais ça vous le savez mieux que moi, éviter les INS. C'est pas en donnant des INS qu'on va bloquer ça. Pas en ce moment en tout cas.
Et est-ce qu'il y a un intérêt à la luminothérapie ? Est-ce qu'il y a un
Oui, absolument. La luminothérapie va être un équivalent de la mélatonine. Pour les gens qui ont les possibilités de s'acheter ça, aujourd'hui, ça s'achète en pratique chez Darty, chez Boulanger à 60-70 euros ou sur Internet. La luminothérapie qui est énormément utilisée dans les pays scandinaves, c'est même une banalité. Les Finlandais déjeunent et ont tous de la luminothérapie dans leur cuisine. C'est une lumière forte qui va activer un équivalent du soleil dès le matin. Et donc, ça permet de faire une forme d'effet reset de notre cycle veille-sommeil. Donc, plutôt que de devoir prendre de la mélatonine en achetant de la mélatonine, c'est tout aussi efficace de faire de la luminothérapie, en particulier au lever, le matin, tôt le matin, une demi-heure par jour. Donc, c'est une très bonne indication de proposer la luminothérapie à nos patients.
Bonjour. Oui. C'est ça.
Est-ce qu'il y a des dangers à la luminothérapie?
Luminothérapie, tu l'as
pas?
Ah
non, mais je peux pas avec la cataracte.
Ça n'a rien à voir avec la photothérapie en dermato. C'est pas des UV la luminothérapie. C'est une lumière assez aiguë, assez puissante, qu'on va mettre le matin. Donc c'est un matériel de luminothérapie qui est particulier et qu'on peut trouver encore une fois dans les magasins, dans les grands magasins aujourd'hui ou sur Internet. Donc faire attention à plutôt conseiller aux patients d'acheter absolument une bonne marque. Genre une marque que tout le monde connaît, Philips, etc. Parce qu'il y a beaucoup de trucs chinois de luminothérapie qui sont des fausses luminothérapies. Ils ont juste mis des petites ampoules banales dedans, qui sont vendues évidemment 3 fois moins cher, mais les patients vont vous dire ça marche pas, parce qu'ils ont acheté un truc premier prix sur Internet. Donc pour être sûr d'acheter de la luminothérapie efficace, demandez à vos patients d'acheter une marque qu'ils connaissent, genre la marque de leur machine à laver ou de leur frigo. On est sûr quand même de, si on achète un truc, Philips ou Braun ou etc. ou Whirlpool, que ce sont quand même des entreprises internationales qui ont fait quelque chose avec sérieux. Mais très bonne idée, la luminothérapie. Et j'y ajouterai à ça, vous savez peut-être que vous avez ça, les radio-réveils à stimulateur de l'aube.
C'est un bon conseil,
en ce moment, avec comme un petit soleil qui s'allume progressivement et on se réveille naturellement, non pas avec la radio à fond, mais avec juste comme naturellement depuis la nuit des temps, c'est-à-dire comme nos ancêtres qui se réveillaient avec le lever du soleil. C'est une bonne méthode aussi.
Ouais, c'est vrai.
Il est 21h04, Michel Loïc, on va peut-être donc s'arrêter là.
Oui, encore merci beaucoup, Fred.
Avec plaisir. Et puis, on reste en contact. Donc, si vous voulez une suite, moi, je suis partant. Donc, on se rappelle. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Mesurez bien votre score cadre ce soir. Et puis, bon courage à tous pour nous et nos patients et nos familles.
Merci. Allez, merci.